Ben, c'est la rentrée aujourd'hui hein, pour un paquet, vraiment là, un paquet d'étudiants, d'étudiantes qui retournent à l'école. Bonne rentrée tout le monde. Et puis, ben, y a d'autres gens qui sont rentrés également. Ce sont les athlètes étudiants. Mm-hmm. Qui ont commencé à jouer. Puis du côté de l'Université de Montréal, en fin de semaine, entre autres, du côté du football universitaire québécois, il y avait les Carabins qui étaient en action. Alors, pour parler de tout ça, du site bulletinsportif.ca, Philippe Malo. Salut Philippe!
Salut Richard!
Ça va bien?
Très bien, merci toi.
Oui, très bien. Alors, comme je l'ai mentionné, c'était le retour du football universitaire. Et ben ici sur la montagne, du côté des Carabins, ça s'est très bien passé.
Ça s'est très, très bien passé. Puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que là, on est dans l'après-Joe Sénécal. On attendait de voir qui allait prendre les rênes de l'attaque des Carabins. Et on a fait ça de manière très intéressante parce qu'on a choisi d'alterner, passe-moi l'expression, drive après drive, possession après possession, offensive, le corps arrière pour les Carabins. On a commencé avec le vétéran Rakim Canal-Charles. Après ça, on a enchaîné avec Pepe Gonzalez, la recrue. Et franchement, ce Gonzalez-là a montré de très, très, très belles choses. Semble avoir peur de rien. Attaque les zones profondes. Franchement, c'était assez spectaculaire de le voir aller.
Ouais, 3 passes de toucher de son côté. Les Carabins, ça a été facile. On l'a dit, 41-14 face à Concordia. Et Philippe, tu le disais, quand même, quand tu perds un gros morceau comme ça, Jonathan Sénécal, évidemment, qui était peut-être là, le visage des Carabins au cours des dernières saisons, certainement leur joueur le plus important. Quand un joueur comme ça doit quitter, forcément, il y a un vide. Mais en tout cas, pour l'instant, et pour ce premier match-là, ce vide-là a quand même assez bien été comblé.
Oui, absolument. Puis, tu sais, on parle de Pepe Gonzalez, évidemment, parce que c'est spectaculaire de voir ce qu'il a réussi à faire, attaquer, comme je disais, les zones profondes, jouer avec beaucoup, beaucoup de confiance. Ça a été intéressant. Ce qui était intéressant aussi, par contre, c'était de voir comment cette défensive-là aussi allait réagir parce que quand même, on perdait un Nicky Farinaccio, on a perdu des Jeremiah Ojo, Montas, des gars importants sur la ligne défensive. Donc, Francon également. Donc, c'était de voir aussi comment ça allait s'organiser, cette défensive-là des Carabins. Et franchement, ils ont été excellents, très, très, très solides. Puis on les a vus montrer un paquet de facettes de jeu. J'ai eu l'impression de les voir ouvrir beaucoup quand même leur livre au niveau de la défensive, des stratégies défensives. Et ça a rendu la tâche extrêmement compliquée à Concordia. Notamment parce que c'était Xavier Tremblay, parce qu'eux autres aussi ont un nouveau carrière.
Ouais.
C'est Xavier Tremblay qui est embarqué, qui a très bien fait ceci étant dit, c'est bien débrouillé, mais quand même, j'avais l'impression en tout cas que les Carabins étaient déjà une machine assez bien huilée, même si c'était le début de la saison comme ça.
Oui, ben le jeune Tremblay, quand même une passe de 87 verges hein, pour un toucher du côté des Stingers.
Mais... Auriola Poirier, d'ailleurs une histoire intéressante, ce Auriola Poirier-là, il jouait au flag football quand il était au cégep à Onsic qui à l'époque était en division 3, maintenant sont en D2, mais... Écoute, il est arrivé, il a joué sa dernière année collégiale avec Onsic comme ça, avec l'équipe de foot. Ils l'ont pris avec eux comme ça pour jouer. A connu une saison extraordinaire, se fait recruter par Concordia, puis maintenant joue universitaire. Comme quoi, un bon athlète est un bon athlète quand on arrive à lui trouver une bonne place. Fait qu'Auriola Poirier, un joueur qui va être intéressant à suivre assurément cette année.
Ouais, et là, ben, du côté des Carabins, ben, c'est parti en force. Évidemment, on peut pas, on regarde ça, puis on s'imagine encore une fois que cette année, ben, ça va probablement être une course à deux. Hein. Philippe, c'est souvent le cas, t'as les Carabins ici, mais à l'autre bout de la vingt, t'as le Rouge et Or là, qui s'active tranquillement. Évidemment, ce sont les champions en titre, on le sait, puis ça fait longtemps qu'ils sont au sommet là, quand même. C'est encore une histoire, une course à deux, vraiment pour cette année?
Ben, je pense qu'on va avoir une... Ben, c'est dur de dire que ce sera pas entre Montréal et Laval, parce que c'est comme ça depuis 10 ans, mais McGill. Puis là, on va avoir quelque chose d'intéressant parce que McGill s'en va à Laval. Laval n'a pas joué en fin de semaine. Là. McGill jouait contre Sherbrooke de l'autre côté, mais McGill s'en va à Laval pour le début de la saison du Rouge et Or la semaine prochaine. Et ça va être intéressant parce que McGill, justement, se positionne comme étant probablement l'équipe numéro 3 de cette ligue-là. Et ils ont énormément de jeunes joueurs, des recrues et beaucoup de talent. D'ailleurs, on l'a vu en fin de semaine, Jerry Momo, le porteur de ballon, avec une course de 81 verges, notamment, dès son entrée dans la Ligue universitaire. Donc, un super joueur de foot, probablement qui va s'installer comme étant le meilleur porteur de ballon de la Ligue assez rapidement. Charles-Olivier Cyr, ce qu'il n'y avait pas avant, un ailier rapproché de 6 pieds 6. Donc, deux recrues qui arrivent à McGill qui modifient beaucoup cette attaque-là. N'empêche, je pense que Laval a les moyens de les arrêter, mais ça va être très intéressant de regarder ce que McGill est capable de faire dès le début de la saison contre une équipe comme Laval, parce que il y a espoir toujours de voir une troisième équipe venir jouer là, les troubles fêtes entre les deux grosses superpuissances. Puis cette année, ben, celle qu'on entrevoit, c'est McGill. Jusqu'à quel point ils vont être capables de le faire? On va avoir déjà un échantillon de leur capacité de la semaine prochaine.
Oui, parce que ça ne fait que commencer, évidemment, puis c'est dur de juger sur un seul match, Philippe, mais ce que tu as vu du côté de McGill jusqu'ici, c'est à tout le moins encourageant?
Ah, oh, très, très, très. Une victoire de 38-22, là, mais il y a eu deux touchés qui ont été marqués par Sherbrooke en fin de match au quatrième quart. On a aussi bloqué trois bottés de suite au quatrième quart par Sherbrooke. D'ailleurs, bien fait pour eux, là, mais... À vrai dire, là, McGill avait l'occasion de vraiment... avoir un plus gros écart que ça. Les 16 points ne sont pas très parlants, si on veut, par rapport à l'allure de ce match-là. McGill a une excellente équipe. Comme je dis, c'est beaucoup de jeunes, mais oui, ont démontré des belles choses. Franchement, Éloi, la tendresse Régimbalde, là, si la face de la Ligue a été Jonathan Sénécal, et que Laval est clairement la grosse machine qu'il faut mettre comme favorite, le joueur à surveiller, là, celui qui peut, comme je disais, là, venir jouer les troubles fêtes, là, ça va passer par celui qu'on appelle ILR, Éloi la tendresse Régimbalde, qui a très, 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 très bien amorcé sa saison. Comme je vous dis, un paquet de nouveaux joueurs là-dedans, un paquet de recrues, mais quelques vétérans, dont le receveur Darius Simmons, là, qui sont déjà en forme, ont montré des belles choses en fin de semaine.
Et Philippe, t'as parlé, évidemment, on parle du Rougeard, on parle de Laval, évidemment, t'as mentionné les Carabins qui sont un petit peu dans l'après Jonathan Sénécal. C'est la réalité, hein, football universitaire, il y a des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent, puis on doit composer avec ça. Du côté du Rougeard, est-ce qu'il y aura des grosses pièces, des gros morceaux à remplacer cette saison?
Ben, des gros morceaux à remplacer, oui. Vincent Delisle, par exemple, Anton Hay, des joueurs qui ont gradué, qui sont passés à la prochaine étape. Mais essentiellement, le noyau est là et de retour. C'est ce qui les rend vraiment favoris du fait qu'ils sont champions en titre, puis 95% du noyau est de retour. Donc, pas des changements très important. Par contre, on a appris que l'excellent Loïc Brodeur, leur ailier défensif, qui était recru l'année passée, qui franchement a fait un travail extraordinaire, que Glenn Constantin compare déjà à Mathieu Betts. Donc là, lui, on a appris qu'il pourrait pas jouer cette saison. Donc, une tuile sur la tête des du Rougeard, mais quand même, ils ont tellement de profondeur. Donc, la défensive va tourner autour de Cloutier, de Justin Cloutier, bref, il y a énormément de bons joueurs. Cette équipe-là a vraiment, là, si la santé est là, avec Desjardins, Olivier Cool, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour continuer sur ce qui s'est passé l'an passé. C'est comme je vous dis, c'est surtout une question de santé, évidemment. Là, des fois, il arrive des malchances. Mais si tout va bien de ce côté-là, le Rougeard est vraiment le favori. Vous allez voir essentiellement une équipe qui ressemble beaucoup à ce que vous avez vu l'an passé.
Bon, puis évidemment, les nombreux partisans des Carabins qui nous écoutent sont peut-être pas d'accord avec cette affirmation.
Exactement, ça c'est la beauté de l'affaire. Ouais. Pour ceux qui sont moins habitués au football universitaire, là, Carabins, Rougeard, c'est Canadien nordique de l'époque. Ouais. Là, franchement, on a des groupes de fans qui sont die hard, si tu me permets l'expression, qui franchement là, font tout pour leur côté. Puis non, ne donneront jamais le bénéfice du doute à l'autre base. Ouais. C'est sûr que les fans des Carabins ne seront pas d'accord avec l'idée que le Rouge et Or peut être favori, ouais. C'est sûr.
C'est Canadien nordique, mais on espère sans le vendredi 5. Ça, on ne veut plus ça.
Non, absolument. Il y a eu quelques histoires à l'époque. Là. D'ailleurs, à l'époque de Jacques Dussault, puis c'est intéressant, c'est un lien que je pensais pas faire, mais je le fais là. Soit dit en passant, cette année, on joue pour la Coupe Jacques Dussault. On ne joue plus pour la Coupe Dunsmore, on joue pour la Coupe Jacques Dussault, ça a été annoncé avant le match des Carabins. Donc, une très, très, très belle initiative. Puis d'ailleurs, ça, ça provient d'une initiative des partisans des Carabins, soit le groupe Les Montagnards, qui avait lancé une pétition il y a quelques années pour faire en sorte que le nom de la Coupe Dunsmore soit changé pour le nom de la Coupe Jacques Dussault. Donc, un grand hommage à un grand, si c'est pas le plus grand pilier de l'histoire du football, le football québécois comme on le connaît aujourd'hui, les entraîneurs et vedettes que vous voyez aujourd'hui, dont Glenn Constantin, ça vient de l'arbre de Jacques Dussault, tout ça. Donc franchement, une belle affaire. Fait que bref, il y a ça de ce côté. Puis oui, il y a eu quand même quelques événements entre Laval et Montréal à l'époque, notamment quand Jacques Dussault était entraîneur à Montréal.
Ouais, et on avait Jacques à l'émission là. Tout récemment, et je peux te confirmer qu'il n'a pas perdu de sa verve. Ça, c'est intact.
Non, absolument. Un vrai passionné, un vrai... oui, absolument. Le personnage, comme tu dis, est intact.
Oui, un bon raconteur aussi. Philippe Malot de bulletinsportif.ca, merci beaucoup pour ton temps à l'émission ce matin, et au plaisir de te reparler très bientôt.
Avec grand plaisir. Merci, Richard.
Salut. Salut bien. Bye-bye. Nous, on va faire une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.